Mais ce matin, je vais prêcher un message. Dans notre église, on a fait la vie d'Abraham. Est-ce que tout le monde entend bien? Ça va? Tout le monde m'entend bien? Je suis assez fort ce matin? Ok, ok. Et justement, on a fait une série dans la vie d'Abraham. En fait, on a fait maintenant Genèse 1 à 25. On arrive au chapitre 25 la semaine prochaine. Mais on a fait un message que je considère comme presque le sommet dans la vie d'Abraham. Et ça, c'est au chapitre 22. Et donc, on va regarder ce matin le chapitre 22, si vous avez votre Bible avec vous. Mais Dieu a fait des promesses importantes à Abraham. Il a dit à Abraham, tu deviendras une grande nation. Il dit, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Il dit aussi, ta descendance sera une bénédiction à toutes les familles de la terre. On voit ça dans Genèse 12, et ces idées seront répétées. Mais tout cela dépendait du fait d'avoir un fils. Si vous voulez devenir une grande nation, il fallait avoir un fils. Et l'histoire de Genèse 12 à 25 tourne autour de cette nécessité d'avoir un enfant. On verra que justement, Abraham pense au début, ce serait mon serviteur, Eliezer. Et Dieu dit non. Ce serait quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, sa femme dit, bon, je ne peux pas avoir un enfant, prends ma servante. Et donc, Abraham aura un enfant par Agar. Et Dieu dirait, 13 ans plus tard, pensons à ça, 13 ou 14 ans plus tard, il dit, non, ce n'est pas là l'enfant que je t'avais promis. L'enfant va sortir de Sarah. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il rit. Il dit non, non. J'ai mal compris que Ishmael vive devant toi. Il dit non. Ce serait un enfant qui sortira de Sarah. Et justement, tu appelleras son nom rire. Isaac veut dire rire. Et il dira la même chose à Sarah. Et quelle est la réponse de Sarah quand elle entend qu'une dame de 90 ans va avoir un enfant? Elle rit aussi. Mais justement, il y aura un enfant né, Isaac. Et on aimerait bien que l'histoire finisse avec ses paroles. Ils vécurent heureux encore longtemps et pour toujours. Et ça semble être le cas, jusqu'au jour où Dieu demanda à Abraham de sacrifier ce fils. Et c'est là où on va lire l'histoire ce matin. Donc, à partir du chapitre 22, dans votre Bible. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui qui tu aimes. Va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste. le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adresse la parole à son père Abraham et dit, « Mon père ?» Il répondit, « Nous voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna cet endroit le nom d'Adonai Yireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et on va arrêter notre lecture là et on va prier le Seigneur. Et puis on va regarder ce texte. Voilà. Donc, je vais essayer de faire avancer là. Attends. Est-ce que je suis bien? C'est moi qui gère la. C'est là? Ah, ok. Merci. Ok, très bien, merci. Mais que faut-il comprendre? C'est ça que ce matin, nous voulons voir par rapport à l'épreuve d'Abraham. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par rapport aux épreuves de la vie? Parce que chacun de nous va traverser les épreuves. Peut-être qu'il y a déjà des gens aujourd'hui qui traversent les épreuves. Et donc, ce passage est pour nous tous. Parce que si nous ne sommes pas dans l'épreuve, on serait bientôt dans une épreuve. Donc, que faut-il comprendre pour réussir une épreuve de la foi? Et donc, ce texte nous informe. Et premièrement, nous voulons voir la nature de l'épreuve. Dans ce texte, nous voyons que Dieu met Abraham à l'épreuve. Il faut dire que tout ce qu'Abraham croyait et espérait fut mis à l'épreuve. Dieu avait promis que toutes les familles de la terre seraient bénies dans la descendance d'Abraham. Et cette descendance, c'est Isaac. Et maintenant, Dieu dit à Abraham, « Sacrifie ce fils que je t'avais promis. » Donc, tout semble s'écrouler avec cette demande de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cette épreuve? Nous trouvons le terme « mettre à l'épreuve » à plusieurs reprises. Dans Exode 16, Dieu met le peuple à l'épreuve en donnant le manne jour par jour. Dieu dit « je vous mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. » Quelle était la loi pour le manne? Il y avait une loi pour le manne. Il fallait chercher le manne quand? Tous les matins. Est-ce qu'on pouvait garder le manne du mercredi au jeudi? Non. Certains ont essayé de faire ça, mais qu'est-ce qui arrivait à la manne quand ils essayaient de faire ça? C'était pourri, c'était infect. D'autres sortaient, il y avait un jour dans la semaine quand même où ils devraient ramasser une double portion. Le vendredi, parce que le sabbat, il n'y avait pas de manne le sabbat. Mais certaines personnes sont sorties pour chercher le sabbat, ils n'en trouvaient pas. Et donc, dans cette histoire, Dieu voulait voir s'ils obéissaient ou non. S'ils voulaient obéir à la règle qu'il avait donnée. Un autre exemple, c'est dans Deutéronome 8, 2 et 3, Dieu met l'homme à l'épreuve afin de lui apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Souvent, dans une épreuve, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Et c'est à nous de discerner, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette épreuve? Et il voulait apprendre aux Israélites, puisqu'ils étaient dépendants de la main, qu'est-ce qu'il voulait leur apprendre? Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de ce qui provient de Dieu. Quelle leçon pour nous, n'est-ce pas? C'est pour ça que des fois, on va perdre son travail. Dieu veut nous apprendre. Ah, en réalité, tu dépends de moi. Il nous donne des fois des difficultés pour nous apprendre certaines choses. Et alors, dans chaque épreuve, il y a quelque chose qui est mis en question. Dieu remet en question quelque chose dans notre vie, où il veut nous enseigner quelque chose. Et souvent, il y a quelque chose qui est remis en question dans notre vie, où Dieu veut nous apprendre quelque chose. Notre texte nous dit ce que Dieu voulait enseigner ou voulait voir dans la vie d'Abraham, n'est-ce pas? Regardons verset 12, où Dieu dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme, et je ne fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et donc, dans cette épreuve, Dieu voulait voir, est-ce que Abraham me craint au-dessous de tout? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier ce qui est le plus précieux pour moi? C'est intéressant que l'idée de que craindre l'Éternel ici, je voulais voir s'il me craint. On peut presque substituer l'idée de l'amour ici. Je voulais voir, est-ce que Abraham m'aime au-dessus de toute chose? Et des fois, Dieu est en train de mettre remet en question quelque chose dans notre vie pour savoir, est-ce que nous aimons Dieu au-dessus de toute chose? Est-ce qu'il est la première chose dans notre vie? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont plus d'importance dans notre vie? Pensons à l'exemple de Job, dans la vie de Job, quand il perd ses enfants, il perd toutes ses richesses, il perd sa santé, il perd même le respect social. Il y avait des jeunes hommes qui, ils disaient qu'ils crachaient sur lui. Donc, Job a tout perdu. Tout était remis en question. Et Dieu veut souvent voir, est-ce que nous l'aimons au-dessous de toutes choses? Et des fois, Dieu enlève des choses pour voir comment est-ce qu'on définit notre vie. Est-ce que vous identifiez votre vie aujourd'hui par rapport à ce que vous faites ou par rapport à Dieu lui-même? C'est le problème même pour les pasteurs. C'est-à-dire, parfois, un pasteur, il trouve son identité, non pas dans le fait qu'il est un enfant de Dieu, mais dans le fait qu'il est pasteur. Et quand il perd ça, c'est très difficile. D'autres personnes, c'est être enseignant. Mais où est-ce qu'on trouve son identité? On devrait trouver son identité en Dieu.
Et des fois, Dieu remet en question quelque chose pour nous éprouver, pour voir si on l'aime. Prenons le cas du jeune homme riche. Le jeune homme riche, il est venu à Jésus désirant la vie éternelle. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Va, prends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et puis viens me suivre. C'est une épreuve. Dieu ne demandait pas ça à tout le monde. Il le demandait ça à cet homme parce que cet homme trouvait son identité dans ce qu'il possédait. Ce qu'il possédait était plus important que Dieu. Et donc Dieu dit, va, vends tout ce que tu as, et puis donne ça aux pauvres, puis viens me suivre. Et est-ce que le jeune homme riche a réussi son épreuve? Non, il n'était pas prêt à le faire. La nécessité de l'obéissance, une deuxième chose que je voulais souligner dans ce texte. Alors, le jeune homme riche n'était pas prêt d'avancer par la foi en obéissant à ce que Jésus lui dit. Mais c'est une chose qui est nécessaire. Mais Abraham, dans notre texte, ne semble pas avoir tardé de faire ce que Dieu lui avait demandé. Regardons notre texte. Verset 3, il a cette instruction dans le verset 2, verset 3, Abraham se leva de bon matin, et voilà, il s'apparait très tôt pour s'occuper de cette affaire. Il coupe le bois à l'avance, il prend deux serviteurs avec lui et son fils. Mais le voyage de 3 jours devrait être long, n'est-ce pas? 3 jours en pensant à ce qu'il devait faire, offrir son fils. Il devait peut-être se dire, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai compris ce que Dieu a dit? Et donc, et puis, quand il arrive là, il voit ça de loin, verset 4, quand il voit ça de loin, verset 3 là, le texte dit qu'il a vu de loin le lieu. C'était le troisième jour, verset 4. Il vit l'endroit de loin. Et donc, il laisse les deux jeunes serviteurs, là avec l'âne. Je me pose la question, pourquoi il a laissé les serviteurs? Peut-être parce que, justement, il ne voulait pas que les serviteurs voient cette scène. Peut-être qu'il craignait aussi que les serviteurs l'empêchent de faire cet acte à son fils. Mais en tout cas, il laisse les deux serviteurs. Mais on voit la foi d'Abraham, parce que, regardons verset 5, il dit à ces jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne. » Il dit, le jeune homme et moi, et le texte hébreu est un peu plus, emphatique. Il dit, nous irons là-haut, nous adorerons et nous reviendrons. Et on peut voir ici le fait qu'il est confiant et volontaire dans cet acte, que Dieu va justement faire en sorte qu'il puisse revenir avec son fils. Et ça, c'est sa foi ici. Mais c'est intéressant dans le verset 6 que la narration devienne ça ralentit. Parce qu'on voit les détails. Regardons verset 6. Où Abraham, il prit le bois pour l'Holocauste. On peut le voir là en train de charger son fils. Et justement, le texte dit, il prit dans sa main le feu. Le feu serait nécessaire pour le sacrifice. Et le couteau. Et puis, on les voit en train de marcher tous deux ensemble. Et puis, la question perturbante dans le verset 7. Cette question où Isaac demande à son père, et son père lui répond, il répondit, me voici mon fils, et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il pose cette question. Ça devait perturber son père. Son père donne une réponse qui est un peu évasive, mais en même temps, qui montre la foi. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu le pourvoira. Dieu le pourvoira lui-même. Et donc, ils marchent tous deux ensemble. Et donc, on voit ici que, justement, que une histoire qui est difficile pour nous de voir. On est la fête des pères aujourd'hui. C'est le jour des fêtes des pères. Et justement, on voit une histoire qui semble être tout le contraire, où un père est prêt à sacrifier son enfant. Mais je pense qu'il y a une leçon pour nous dans tout ça. Les enfants, est-ce qu'ils nous appartiennent en propre? Est-ce que mes enfants m'appartiennent? Ou est-ce qu'ils appartiennent à Dieu? Je dirais, ils appartiennent à Dieu. Nos enfants appartiennent à Dieu en réalité. Quand Dieu nous donne des enfants, il faut reconnaître qu'ils appartiennent à Dieu. Job a dit autant quand il a dit, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Ça, c'est quand il a perdu tous ses enfants. Et je pense que pour nous, il faut reconnaître que nos enfants appartiennent à Dieu. Mais on voit ici une attitude aussi qui était intéressante chez le fils. Pensons au fils vis-à-vis de son père. Il a laissé son père le ligoter, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais le fils, il le permet, il laisse son père faire ça. À un moment donné, il fallait dire, désolé mon fils, mais c'est toi qui es le sacrifice. Son fils devait être d'un âge où il aurait pu résister à son père. Il aurait pu prendre la fuite. Il aurait pu courir plus vite que son père. Mais il a permis à son père de faire cet acte. Je dirais pour les enfants d'aujourd'hui, faites confiance à vos parents. Faites confiance à vos parents. Des fois, les enfants pensent qu'ils savent mieux que leurs parents. Mais c'est faux. Dieu vous a mis dans une famille et il faut faire confiance à vos parents. Faites confiance à vos parents. Je connais un jeune homme qui avait 19 ans et justement sa mère lui a téléphoné de ne pas voyager avec une équipe car elle a eu de mauvais rêves à l'égard de cet avion qu'il devrait prendre. Et le jeune homme de 19 ans, il a obéi à sa mère. Et c'était une bonne chose parce que l'avion s'est écrasé et le reste de l'équipe a péri. Mais il a écouté sa mère, même s'il avait plus de 18 ans. Donc, on voit ici chez Isaac un grand exemple pour nous tous de soumission à la volonté de Dieu. Mais sa mère, Abraham, était obéissant de Dieu. Isaac est obéissant de son père. Et quand Christ est mené à l'abattoir comme une brebis qui n'ouvre pas sa bouche selon Ésaïe 53:7, nous voyons Isaac mené comme une brebis qui n'ouvre pas la bouche. On ne voit aucun instant ici où il semble que Isaac résiste son père. Et donc Abraham prend le couteau et il fait l'acte pour tuer son fils. Mais c'est en ce moment-là que justement l'ange de l'Éternel appelle Abraham. Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant. Ce n'était pas l'intention de Dieu que Abraham tue son fils. Il voulait simplement voir si Abraham était prêt à la faire. Et justement, ce qu'Abraham avait dit à son fils est vrai. Dieu s'est pourvu un sacrifice. Regardons là, il y avait dans le verset 13 un bélier qui était pris par les cornes dans un buisson. Il faut dire juste au bon moment. C'est-à-dire, ce n'était pas avant cet acte qu'il a constaté le bélier. Ce n'était pas longtemps après. Dieu a pourvu au moment nécessaire ce qui était nécessaire pour le sacrifice. Et il a délivré à Isaac de cette situation. Et Abraham aussi. Et Dieu pourvoira. Et dans notre vie, il faut regarder pour la provision de Dieu au milieu des épreuves. Dieu est en train de pourvoir souvent la grâce. La grâce. Paul était face à un problème, on pense, de santé. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et donc Dieu donnerait ce qui est nécessaire. Dieu pourvoira. À cause des épreuves dans notre vie, quand même, la vie est comme une montagne russe. Vous aimez prendre les montagnes russes dans les parcs d'attractions, c'est ça? Moi, je ne fais plus les montagnes russes. On arrive à un certain âge où on n'a rien à prouver, n'est-ce pas? Mais je ne prends plus. Mais je dirais dans la vie chrétienne, il y a des moments comme ça avec les épreuves, où justement la vie est comme ça à cause des épreuves. Mais Dieu veut nous faire grandir à travers les épreuves. Si on n'avait pas d'épreuves, on ne grandirait pas dans sa foi. Dans notre vie, il faut faire confiance à Dieu. Mais parfois, il n'y a pas quelque chose qu'on peut obéir dans les Écritures. Mais pensons aux enfants d'Israël dans le désert. Quand ils étaient dans l'épreuve, ils manquaient d'eau, ils manquaient de nourriture. Quelle était la réponse des enfants d'Israël? Ils murmuraient, ils se plaignaient. Et ça, c'est la mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est de faire confiance à Dieu. Vous ne savez pas comment ça va finir, mais vous faites confiance à Dieu dans l'épreuve. Et ça veut dire qu'on ne devrait pas se plaindre, on ne devrait pas se plaindre de l'épreuve et au milieu de l'épreuve. Essayez de ne pas vous plaindre au milieu des épreuves. De l'être plutôt reconnaissant. Comme on a vu au début du culte aujourd'hui, ayons une attitude de, justement, de reconnaissance. Finalement, dans ce passage, la récompense de la foi, et Dieu récompense grandement la foi d'Abraham, c'est la dernière fois que la promesse fut annoncée à Abraham lui-même. On trouve la promesse faite à Abraham dans le chapitre 12, on peut le trouver dans le chapitre 13, chapitre 15, chapitre 17, chapitre 21. On trouve la promesse répétée d'une manière ou d'autre. Mais ici, c'est plus ou moins la dernière fois, mais c'est le plus exalté des promesses. Regardons notre texte là, dans le verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédiction, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer,
Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis,
or
possédera la porte des ennemis. Et toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Et donc ici, il y a quatre choses qui sont dites à Dieu. Dieu jure par lui-même. On dit qu'il ne pouvait pas jurer par quelque chose de plus haut que lui-même. Il avait déjà promis. Et maintenant, il prend un serment. Donc, les deux choses. Hébreux 6 parle de ce fait, dans Hébreux 6, 13 à 20, pour dire quand Dieu a promis et ne trouve rien par lequel il pouvait jurer le plus haut que lui-même, il jure par lui-même. Pour donner une assurance que les choses vont arriver, il est en train de dire à Abraham, certainement, tu seras béni. Et donc, le texte le traduit là de manière différente, mais il te comblera de bénédiction. C'est une façon de le dire là. Je te bénirai grandement. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Donc, il aura une grande descendance comme promis. Et que sa descendance possédera la porte de ses ennemis. Ça parle peut-être de la conquête que justement Israël va pouvoir vaincre les ennemis. Et Dieu va donner ce pays à ses descendants, certainement. Et que toutes les familles de la terre trouveront leur bénédiction dans sa descendance. Il faut dire que la descendance d'Abraham était une grande bénédiction dans notre monde, n'est-ce pas? Pensons au peuple juif. Au peuple juif. Une grande bénédiction dans notre monde. Savez-vous que, justement, 20% des gagnantes des prix Nobel, 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, sont juifs. 1 sur 5. Les juifs représentent dans le monde 1 sur 500. Mais 1 sur 5 des gagnants des prix Nobel est un juif. 41% des prix sur l'économie. Et 28% dans les prix de chimie, parmi les prix Nobel, sont juifs. Parmi les choses que les juifs ont contribué au monde, nous trouvons le vaccin contre le polio, l'insuline, l'aspirine, chlorhydrate pour les convulsions, et ils ont contribué à la recherche et traitement d'autres maladies comme la fièvre jaune, typhoïde, la rougeole, la diphtérie et d'autres. Mais la Bible vient plus ou moins de qui? Les Juifs et le Messie. En fait, dans le Nouveau Testament, il va mettre un accent sur le fait que la descendance qui bénit le monde, c'est qui? Jésus-Christ. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Et donc, Jésus-Christ est celui par qui le monde a été béni. Et donc, il est la grande réponse à cette promesse. Et donc, on peut voir ça dans Hébreux 3:8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et donc, toutes les familles de la terre seront bénies dans la descendance d'Abraham à travers Jésus-Christ. Mais toutes ces promesses découlent du fait qu'Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Selon un auteur, Dieu voulait purifier l'amour d'Abraham pour Isaac. Il voulait purifier cet amour. Que ça ne soit pas égoïste. Mais aussi, il voulait purifier l'amour que Abraham avait pour Dieu. Des fois, pourquoi est-ce qu'on sert Dieu des fois? Pourquoi est-ce qu'on sert Dieu des fois? Parce qu'on pense que la vie irait mieux si je suis Dieu. Et donc, des fois, c'est d'une manière égoïste qu'on sert Dieu. C'était l'accusation contre Job. C'était l'accusation contre Job. Et donc, Abraham avait besoin de surmonter les obstacles de sa propre chair et de la nature humaine pour sacrifier son fils. Il a appris à faire confiance à Dieu dans un endroit de basse visibilité, dans les brouillards. Des fois, quand on est sur les routes, on est en train de conduire, des fois on a très mal. On a vraiment du mal à voir clairement où on conduit la voiture. Et c'est un peu ça avec Abraham. Il ne savait pas où ça allait finir. Mais est-ce que vous arrivez à faire confiance à Dieu dans vos épreuves? Et le monsieur que je connais vient de mourir au mois de mars. Et c'était un homme avec qui j'ai joué au tennis. Cet homme était un homme très brave. Il avait juste un bras, le bras droit. Mais ce qui était difficile pour moi, c'est qu'il me battait au tennis des fois. Et on a eu vraiment des matchs très serrés. Mais en 2009, cet homme a eu une chirurgie pour un cancer au cerveau avec des traitements de rayons qui a suivi, chimiothérapie. Mais ils ont posté sur YouTube un entretien avec lui. Et il a dit que dans cette épreuve, il a appris sa fragilité et combien une personne dépend de Dieu. Combien une personne dépend de Dieu. Sa femme disait qu'elle a appris à quel point la grâce de Dieu était là au moment nécessaire. Elle a parlé même, elle a expérimenté une effusion de grâce dans cette situation. Et le monsieur a pu dire, Dieu nous a attirés plus près de lui à travers cette maladie, même plus proches l'un de l'autre. Il a ajouté une chose que j'ai trouvée étonnante. Il a dit, ces derniers 6 mois ont été les meilleurs de ma vie. Pensons à ça. Dans cette épreuve, les derniers 6 mois ont été les meilleurs de ma vie. Et je ne les échangerai pour rien au monde. Il dit, si Dieu veut que je reste, je serai content. Si Dieu veut que je parte, je suis prêt. Je serai aussi content. Mais il dit, l'essentiel, c'est que son nom soit honoré et glorifié. La profondeur de cette histoire est grande de plusieurs manières. Selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 19, Abraham est confiant que Dieu peut même ressusciter les morts s'il tue son fils. Et c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et c'est une image, justement, de la résurrection de Jésus-Christ. Abraham est typique du Père qui sacrifie son fils. Comme Romains 8, 32 nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et Isaac est typique du fils qui donne sa vie, mais qui le retrouve par la résurrection. Mais pour nous aujourd'hui, nous allons nous trouver dans les difficultés, dans les épreuves. Est-ce qu'on va réagir en obéissant à Dieu et en agissant par la foi? Je suis en train de remettre en question quelque chose dans notre vie. Est-ce qu'on va lui faire confiance? Et souvent, la réponse que Dieu va nous donner, c'est parfois simplement une communion plus intime avec lui. Il veut que nous le connaissions d'une manière plus intime. Et en fait, c'est ça la vie, la vraie vie. C'est la connaissance de Dieu et d'expérimenter
sa présence avec nous.
David pouvait dire que justement, dans sa présence, il y a quoi? D'abondante joie.
C'est ça la vraie joie, d'avoir une communion intime avec le Seigneur. Et dans nos épreuves, il nous pousse dans cette direction. Et c'est à nous de ne pas résister à ça, mais d'entrer tout pleinement dans cette communion avec lui.